Capitalismo e tecnologia, idealizam um Dom José, é o título do livro do economista Pascal Lima, em plena crise do coronavírus. O livro aborda, nomeadamente, a questão da transformação das profissões, a influência das tecnologias nas profissões do futuro. É isso que ele começa por nos explicar.
En fait, c'est qu'il y a dans la population des gens qui n'aiment pas du tout les technologies ou qui ont peur de l'avenir ou qui ont peur des technologies. C'est une première catégorie de population. Puis il y a une autre catégorie de population qui aime plutôt les technologies, qui n'ont pas peur de l'avenir, qui n'ont pas peur des technologies dans l'économie, quoi. Et donc, il y a des liaisons dangereuses parce que dans l'économie, les technologies peuvent avoir des impacts des fois négatifs parce que quand on va robotiser, il va y avoir des licenciements, les emplois vont se perdre. Donc ça, c'est pas bien. Il y a aussi des risques de guerre technologique aussi dans le monde. Donc tout ça, c'est pas très très positif en fait. Et puis on voit aussi dans le cinéma beaucoup de films comme Monde Ouest ou Terminator qui parlent des technologies de façon négative. Donc là, il y a une liaison dangereuse. Mais d'un autre côté aussi, les technologies, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est l'avenir de l'économie parce que les gens cherchent à gagner de l'argent, à gagner du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat passera par les métiers de demain. Et les métiers de demain, c'est des métiers qui ont une composante technologique assez importante.
Donc il y a vraiment un danger si on rate ce changement?
Oui,
il est vraiment impératif de le faire?
Oui, je crois que c'est impératif parce que c'est dans les chiffres qu'on voit ça. Il y a notamment beaucoup de métiers dans l'économie, en particulier des métiers administratifs, des métiers qu'on appelle fonction support, c'est-à-dire des métiers très administratifs, en fait, plutôt des métiers manuels, des métiers pas que manuels, mais aussi des métiers liés à la saisie, par exemple, la saisie, la comptabilité, tous ces métiers-là sont des métiers qui vont être amenés à disparaître un petit peu, quoi.
Oui, justement, j'allais vous poser les questions. D'après vous, quels seront les métiers qui vont disparaître dans les prochaines années à court terme, on va dire?
Il y a des métiers beaucoup de métiers dont certaines parties des tâches vont être très automatisées. C'est des métiers qui sont liés à la comptabilité, à la saisie manuelle des données. En fait, ce sont des fonctions support. L'aspect administratif, tout ça, va être un peu automatisé. Pas totalement, mais un peu, mais suffisamment, justement, pour se bouger et pour aller vers d'autres métiers ou enrichir ces métiers. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, le deuxième point qui est essentiel, c'est que c'est souvent la classe moyenne qui exerce ces métiers. Et la classe moyenne, c'est vraiment le socle démocratique d'une société, quoi.
Donc, pour l'instant, je pense que ce changement, il est plutôt bien accepté par les nouvelles générations.
Il est bien accepté par les nouvelles générations qui sont très connectées. Il y a également des personnes qui acceptent de se former, par exemple, quand vous êtes comptable, de devenir un expert comptable qui va utiliser des technologies comme l'intelligence artificielle, parce que ça crée de la richesse. Ça crée de la valeur et, in fine, c'est le pouvoir d'achat de cet expert comptable qui va augmenter. Donc, si l'on explique que vous allez améliorer votre pouvoir d'achat par, justement, la transformation des métiers et l'apport de la technologie, les gens commencent à comprendre vraiment. Et donc là, il y a des gens qui se bougent vraiment. Maintenant, il y a encore des gens, un petit peu, malheureusement, parfois, certains gilets jaunes, parfois un petit peu les indignés, parfois un petit peu tous ces mouvements sociaux dans le monde qui ont du mal à comprendre qu'on vit un vrai virage. Et que ce virage, on reculera pas. C'est comme l'arrivée de l'informatique dans les années 60.
Au niveau conséquences immédiates, parce qu'il y a quand même des métiers que on peut pas forcément adapter à la nouvelle technologie.
Oui. Alors il y a effectivement, c'est une question qu'on pose souvent. On pose souvent deux types de questions, celle-ci et puis. Finalement, j'aime bien être artisan, manuel, et que c'est un métier très français, très traditionnel, et que j'ai pas envie de changer. Alors, sur le premier point, c'est vrai que, très clairement, il y a la possibilité pour ceux qui ne veulent pas, en fait, alors c'est pas très optimiste, mais ceux qui ne veulent pas, il y a un risque, si vous voulez, quand même, de tomber dans des petits métiers, dans des jobs à 1 euro, comme on dit, qui vont se multiplier considérablement, qui sont liés à la service à la personne, mais qui sont des petits boulots pas très fortement rémunérés. Et si vous êtes diplômé, vous risquez de tomber dans cette catégorie si vous évoluez pas.
Mais ils sont quand même essentiels à la société, certains métiers.
Ils sont essentiels à la société. mais il faudra le compléter en termes de revenus, parce que ce ne sera pas suffisant en termes de revenus. Et ce que je propose, ce n'est pas moi du tout qui le propose, il y a plein d'économistes qui l'ont déjà fait avant, bien évidemment, mais c'est de mettre en place, évidemment, le revenu universel. C'est la seule solution pour cette population-là. Les artisans, malheureusement, ils risquent quand même une petite externalisation vers la Chine ou vers des pays à bas coût de leurs produits et services si on ne ferme pas un tout petit peu ou on ne régule pas un petit peu, je dirais, l'économie au niveau des frontières. C'est mon avis.
Le progrès, maintenant, est-ce que c'est plus difficile à s'adapter ?
Ce qu'il y a, c'est que le progrès aujourd'hui, il est plus difficile qu'avant, et c'est une très bonne question. Pourquoi ? Parce qu'avant, quand vous passiez du secteur agricole ou vers le secteur industriel, quelque part, c'est des métiers très différents, mais qui finalement sont proches. Je m'explique, c'est des métiers très différents. Parce que là, on travaille avec agriculteurs, et subitement, vous devenez ouvrier. Bon, ça a l'air d'être différent, mais finalement, l'adaptation, elle s'est quand même faite assez rapidement. Aujourd'hui, le problème, c'est que pour un même métier, l'effort va être beaucoup plus grand. C'est-à-dire que vous êtes comptable, pour devenir expert comptable en utilisant l'intelligence artificielle, eh bien, l'effort de formation est beaucoup plus important que pour passer d'un agriculteur vers un ouvrier. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'effort est très important, mais l'enjeu, c'est quand même le niveau de vie et le pouvoir d'achat que tout le monde recherche, quoi.
Là, maintenant, on vit une crise sanitaire, le Covid. On ne connaît pas très bien le virus, la solution. Il y a des vaccins qui vont être proposés. L'impact sur la société et surtout sur l'économie d'un pays comme, par exemple, la France, le Portugal.
Alors, sur l'impact sur l'économie, il y a le niveau macroéconomique. Là, on a en fait eu deux vagues, avec une forte récession sur la première vague, une perte de 9-10%, parfois 11%, certaines estimations, en moins du PIB, pour la France et pour le Portugal, et en moyenne. Et là, la deuxième vague, on va perdre beaucoup moins, bien sûr, parce que les gens sont déjà adaptés. Mais par contre, le redressement va être plus difficile, parce que les effets d'accélération sont déjà passés, parce que la dette gonfle et parce que les revenus et les salaires ont baissé entre-temps. Donc, à cause des mesures, évidemment, de chômage partiel. Donc, là, il y a un problème pour se relever aujourd'hui plus fort qu'au mois de juillet-août, si vous voulez.
Mais est-ce que, par exemple, le changement que vous parlez, est-ce que les États, ils sont prêts ? Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Dans combien de temps ? Comment ? Ça va être progressif quand même.
Ça va prendre des années, ils peuvent le faire. Le Covid n'a fait qu'accélérer la transformation de l'économie et la transformation des métiers.
Donc c'est le point de départ pour ce changement, c'est ça ?
Exactement, c'est le point de départ. Le télétravail, on utilise des outils numériques. Les réunions, on utilise maintenant, on fait des réunions, des formations en ligne. Tout cela, c'est le départ d'une nouvelle économie, et avec évidemment en ligne de mire, au bout du tunnel, le développement durable, l'environnement et l'égalité des chances. Je pense que c'est le début d'une autre ère.
Donc, d'après ce que vous me dites, avec ce changement, la vente à distance va-elle balayer les petits commerces, les petits artisans ?
Je pense que c'est complémentaire. Je pense que, bon, pour le cas d'Amazon, par exemple, d'abord Amazon ne balaye pas complètement les petits commerces, puisqu'Amazon diffuse aussi beaucoup de produits de petits entrepreneurs et de petits commerces, mais que c'est la mixité, ce qu'on appelle le phygital. Le phygital, c'est d'associer à la fois petits commerces, agences physiques, en dur, donc, comme avant, en quelque sorte, traditionnel, avec leur propre site internet. C'est-à-dire que finalement, ils peuvent combiner à la fois des agences physiques et en même temps du digital. C'est les deux composantes qui me paraissent importantes. Alors c'est vrai, il y a des commerçants qui vous disent de toute façon c'est que 7%, le click and collect par exemple, c'est que 7% de notre chiffre d'affaires. Oui, c'est 7% aujourd'hui, mais je pense que d'ici deux ans ça va monter à 30-40. Et ça permettra donc le numérique de faire vivre aussi les petits commerces en fait. Il n'y a pas cette opposition, me paraît pas aujourd'hui si évidente. Elle est plus évidente dans d'autres secteurs de l'économie, comme le secteur bancaire, où il y a des vrais monopoles ou des vrais oligopoles. Mais Amazon, aujourd'hui, c'est uniquement un cinquième du commerce de distribution en ligne. Et si les petits commerçants français doivent s'inquiéter, c'est plutôt de ces discounts, de la FNAC, etc.
Vous avez parlé là du secteur bancaire. Cette crise sanitaire, quel impact va avoir sur le secteur bancaire? Parce qu'on entend beaucoup de choses, que la banque, elle peut ne pas résister.
Oui, il y a des, effectivement, on a des, il y a des données déjà qui existent sur le secteur bancaire, avec des taux d'intérêt très très faibles, donc une rentabilité très faible, encore plus faible, avec une baisse des revenus, de l'épargne et des demandes de crédit aussi qui sont fortes pour beaucoup de gens. Les banques vont essayer de résister. Elles mettent en place aussi des technologies pour essayer d'être au plus proche de la clientèle. Mais c'est sûr que il faut espérer qu'on n'ait pas un jour une crise financière et bancaire qui arrive dans les deux prochaines années, comme malheureusement certains économistes prédisent.
La banque, elle aussi, elle s'adapte. Il y a beaucoup de banques déjà en ligne. Il y a aussi une perte d'emploi dans ce secteur-là.
En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter ces pertes d'emploi. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, il y a une création nette d'emploi autour des technologies, plutôt jusque vers 2030-2040. Et en se formant, on capte les emplois et on capte les richesses, parce qu'on est dans un cycle où la productivité, le lancement des financements, de l'épargne est très forte. Et derrière, il y a des technologies qui boostent tout cela, qui identifient la clientèle, qui permet aux clients de se connecter facilement, d'être dans une ère un peu ultra connectée quelque part. Et les employés, évidemment, vont être directement impactés. Mais en se formant, il y a quand même des chances d'arriver, encore une fois, à rendre les deux compatibles. Un petit peu toujours ce que j'essaie de dire, pas faire d'opposition forcément, mais quelque part aussi, si on rend compatible les deux, à la fois l'utilisation d'un logiciel, d'une intelligence artificielle et en même temps son métier traditionnel, on peut créer de la valeur. Et s'il y a de l'automatisation un peu, ça reste encore beaucoup que sur certaines tâches d'une fiche de poste et pas sur toutes les tâches, heureusement, quoi.
Vous croyez que cette évolution vers le capitalisme technologique, comme vous le décrivez dans votre livre, va créer beaucoup plus de pauvreté?
Ouais, c'est une bonne question, elle est centrale dans le livre. En fait, les inégalités, si l'on ne fait rien, le capitalisme technologique va augmenter les inégalités si l'on ne fait rien, d'où les liaisons dangereuses. Une autre façon de répondre à votre question du tout début, si on ne fait rien, on va avoir des fonctions support des classes moyennes qui vont disparaître en partie, on va avoir plein de petits boulots, enfin plein des petits boulots, mais qui sont très très à composantes très technologiques en haut, et puis des millions de petits jobs à la base. Donc quelque part, les emplois, le nombre d'emplois va augmenter, mais la précarisation va augmenter aussi. C'est pas paradoxal, c'est tout à fait compatible. Et donc, si on ne fait rien, le capitalisme technologique appauvrira la société. Sauf que si l'on fait quelque chose, c'est-à-dire si l'on se forme, et si l'on met en place aussi un revenu universel, on peut arriver à protéger une grande partie de la population et à réduire les inégalités.
Étant économiste, vous êtes optimiste ?
Très optimiste, mais inquiet. Optimiste parce que je crois dans l'intelligence des Français, des gens en général. J'ai toujours cru en l'humain, j'ai toujours cru en leur capacité d'adaptation. Et on a des exemples historiques qui le prouvent. Le capital humain est très bon en France, il l'est aussi au Portugal de plus en plus. Et je crois plutôt en l'humain. Maintenant, je suis inquiet par les résistances sociales qui peuvent exister parfois sans grande raison, par des idéologies, des oppositions faciles entre les choses. Là, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, surtout en France.
Les pays riches et pauvres sont à peu près au même niveau face à ce virage ou pas?
Alors, les États-Unis ont 10 ans d'avance sur l'Europe, et en Europe même, les leaders sont les pays du Nord, qui ont plus d'innovation, la Grande-Bretagne, alors qui fait plus partie de l'Europe maintenant, mais c'est un peu leader en innovation. Nous, on a aussi beaucoup de start-up, comme on dit, des petites entreprises qui fleurissent. Je dirais surtout effectivement pays du Nord, un peu la France vient derrière. En nombre de brevets, c'est un peu comme ça que ça se passe.